Donc, avec l'embrasement, l'explosion, de faire partir l'obus. Donc ici, on stocke, après les événements de guerre, on est à 3000 coups. Hein, on est à 1000 coups explosifs, 1000 obus à balles, 1000 obus explosifs et 500 boîtes à mitraille. Donc ça, c'est l'obus à balles à l'intérieur des shrapnels. Ça part, ça explose, hein, la tête part, et on essaye de blesser un maximum de personnel. Alors, les deux munitions qu'on a vues là, elles explosent après 500 mètres, entre 500 mètres et 4,9 km. Les 500 premiers mètres ne sont pas pris en compte, donc par ces deux munitions-là. Donc on a inventé, non pas un obus, mais une boîte à mitraille. C'est pas un obus, c'est une boîte très fine, à l'intérieur des billes aussi en plomb, dans l'âme du canon, c'est-à-dire dans le canon même, se désagrège. Voilà, les billes vont partir dès la sortie du canon. On fait du supermontier, hein. C'est le but. Hein. Vous voyez qu'il y avait deux canons à l'étage, hein. On pouvait balayer toute la zone avec des billes comme ça. C'était quasi infranchissable pour l'infanterie. On tire, si vous voulez, à la chevrotine. Vous voyez un peu les dégâts que ça peut faire. C'est deux canons 75. On a le seul exemple où on a utilisé donc cette boîte à mitraille, c'est à l'ouvrage de Froide-Terre. À Verdun, à côté du fort de Douaumont. L'ouvrage, les Allemands sont carrément sur la caserne. Le commandant va demander à la tourelle d'intervenir. Elle va tirer 116 boîtes. Ils ne reviendront pas, les Boches. Ils ne reviendront pas à la charge.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour au loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirai le pouls de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point. Toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois, aux instants de folie, de jeunesse et d'amour, et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Oh, mon unique amour et ma grande folie.
Et Annie Lacroix-Ry, on peut aussi dire qu'il y a eu une disproportion qui s'est creusée à ce moment-là, entre, enfin en tout cas en 14-18, entre des poilus qui se retrouvent confrontés à un développement des armes, de l'armement, assez incroyable, et donc avec des nouvelles technologies, l'utilisation des gaz, etc., et du coup des pertes terribles au niveau de la piétaille, ou de ce qu'on a appelé les poilus, face à un développement de l'industrie de l'armement qui ne va plus arrêter après.
Il est clair que la Première Guerre mondiale marque le triomphe du complexe militaro-industriel. Les grandes entreprises arrivent directement à la gestion de la guerre. On a pu considérer, par exemple, qu'en France, qui faisait la loi pendant la Première Guerre mondiale, le comité des forges, le comité des houillères, sans oublier la haute banque, représentée par la Banque de France privée. Donc, on est dans une situation où il y a un véritable nœud d'intérêt entre l'État, l'appareil d'État et l'ensemble du grand capital concentré. Alors, vous évoquez le développement d'armes d'une efficacité redoutable, qui avait commencé à se développer au XIXe siècle, avec une augmentation, développement de ces technologies de destruction. On pourrait faire remarquer, si on faisait de la théorie, et il est malheureux qu'on en fasse de moins en moins, que le développement de ces armes est à la mesure de la surproduction du capital, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale développe des armements